C'est un secteur en pleine expansion que nous allons décortiquer ce matin, celui de la vidéo à la demande. Et plus précisément, de la vidéo à la demande par abonnement, ce que dans le jargon, les pros appellent VADA. Derrière cet acronyme VADA, une foule de plateformes plus ou moins puissantes, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, mais également Salto, la Cinétech moins connue ou Spicy. Une offre pléthorique analysée dans une étude dévoilée en exclusivité dans Culture Média ce matin. Étude menée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour Hervé Gauthier.
Bonjour.
C'est vous qui avez piloté cette étude, vous qui êtes l'un des 9 conseillers du CSA depuis un peu plus d'un an maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi le CSA s'est-il intéressé à la vidéo à la demande par abonnement et pourquoi maintenant?
Alors d'abord, juste deux petites rectifications.
Allez-y.
La première, c'est que l'étude, on l'a menée avec le Conseil supérieur d'audiovisuel et la Hadopi, ce qui a...
J'allais en parler, mais c'était pour simplifier, voilà. Mais vous faites bien de le dire.
Qui a une part importante, effectivement, dans cette étude. Et puis, il n'y a pas 9 sages, il y en a 7.
D'accord.
Mais,
depuis... bon. Alors là, par contre, celle-ci, elle est pour moi.
Pourquoi est-ce qu'on a mené cette étude plus sérieusement? Simplement parce que, d'abord, on voit que depuis 2014, pourquoi 2014? Parce que c'est l'année où Netflix est arrivé en France. Assez discrètement, d'ailleurs, ouais. À l'époque, il faut se rappeler que tout le monde n'y croyait pas. Et depuis 2015 plus particulièrement, le secteur de la vidéo à demande par abonnement, la VADA, comme vous dites, ouais. A véritablement explosé. Le chiffre d'affaires s'est multiplié par plus de 10. Aujourd'hui, on a 6 millions d'utilisateurs. Il y en avait 5 l'an dernier, il y en avait 3 l'année d'avant. Donc on voit que ça progresse de manière colossale. Et pour le CSA, comme pour la Hadopi, l'observation du secteur économique, et particulièrement d'un secteur que nous régulons, ça fait sens. Et donc du coup, on s'est posé la question d'abord de l'état de ce marché, de la manière avec laquelle il progresse. Et puis dans un deuxième temps, on s'est posé une autre question qui était de savoir, mais comment est-ce que les consommateurs consomment finalement de la VADA aujourd'hui? Et comment est-ce qu'ils sont susceptibles de la consommer demain en fonction d'une démultiplication de l'offre, ouais. Ou au contraire d'une réduction, ou d'une augmentation, ou d'une baisse des prix?
Mais quand vous dites ça, ça pourrait presque être une enquête marketing. Comment ils consomment? La différence, c'est que le CSA, c'est un peu le gendarme de l'audiovisuel. Pourquoi le CSA s'est intéressé justement à ces plateformes-là?
Parce que quand on est un régulateur, il faut qu'on connaisse bien le secteur qu'on régule. Il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, toutes les plateformes de vidéo à la demande françaises opérant en France sont régulées par le CSA, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes et d'obligations à respecter. Mmh. Et jusqu'à présent, les grandes plateformes, les plus grandes dont vous parliez à l'instant, les Netflix, Disney, Amazon, etc., qui sont des plateformes étrangères mais opérant en France, n'étaient pas régulées par le CSA. Et avec la directive européenne SMA qu'on est en train de traduire en droit national et qui va être opérationnelle en France dans quelques semaines, quelques mois, dorénavant, les très grandes plateformes vont également rentrer dans le champ de la régulation. Donc on a besoin d'avoir une connaissance de ce secteur pour bien le réguler, justement.
Juste, vous venez de dire quelques semaines, quelques mois, c'est quelques semaines ou c'est quelques mois? Ça sera quand? C'est quoi votre horizon?
Plusieurs mois, ça fait plusieurs semaines.
D'accord, oui, mais enfin,
on n'a pas de date précise pour l'instant, mais c'est imminent.
Alors, il y a les grosses plateformes, Netflix, Amazon Prime Video, vous l'avez cité, Disney+, et il y a aussi des plus petites en France, il y a Salto, lesquelles d'autres?
Alors, il faut savoir qu'en fait, le secteur est très grand, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a que ces très grandes plateformes dont on parle, mais en fait, il y a 78 services de vidéo à la demande.
Exactement.
Par abonnement.
Pour vous dire, je l'ai découvert en préparant ce dossier. Voilà. J'ignorais qu'il y en avait autant.
Et alors, quand on parlait de la croissance du marché, c'est la croissance aussi du nombre de ces plateformes, puisqu'elles n'étaient que 65 il y a encore 3 ans. Donc, il y en a tous les jours qui se créent. Et il y en a des toutes petites qui sont parfois totalement confidentielles, mais qui ont leur modèle économique. Et l'ensemble crée un écosystème qui crée de la valeur, qui crée de l'activité, qui crée des emplois et qui marche bien.
En France, selon les premières estimations, c'est 1,2 milliard d'euros en 2020, mais il faut quand même dire que c'est encore peu par rapport à la télé dite classique. C'est moitié moins que le chiffre d'affaires du groupe TF1 et c'est près de 3 fois moins que le chiffre d'affaires de la télé payante, mais quand même, c'est considérable et de toute façon, ça ne cesse d'augmenter. L'émergence des grandes plateformes internationales a poussé aussi les grands groupes audiovisuels à réagir, à répondre. En France, on va y revenir, mais également à l'étranger. Quelles sont les différentes stratégies qui ont été mises en place pour contrer ces plateformes, d'abord aux USA et ensuite en Europe?
Alors, On va dire qu'il y a en gros quatre stratégies. La première, dont on a un très bon exemple en France, c'est de créer des alliances entre les acteurs traditionnels. Et quand je dis que c'est un très bon exemple en France, c'est Salto. Vous savez, cette plateforme qui est née à l'automne dernier.
On l'avait appelé le Netflix à la française. C'est l'alliance de TF1, du groupe TF1, du groupe France Télévisions et du groupe M6.
Exactement. Ils aimeraient bien être un Netflix à la française. Je sais pas si
j'avais mis
vraiment...
des guillemets avec les doigts,
oui,
si j'ose dire.
Je sais pas encore.
C'était
si
les journalistes qui l'appelaient comme ça,
voilà,
le Netflix à la française.
C'est encore un petit peu tôt pour le dire.
Bien sûr.
Ils sont tout neufs. Et puis, je sais pas si c'est vraiment leur ambition. Je pense que leur ambition, c'est au moins de cohabiter avec ces grandes plateformes et d'avoir un vrai modèle économique qui résiste.
Et puis, c'est un rapport de 1 à 1000, pardon de dire ça.
Oui.
Leur budget est en millions et Netflix, leur budget est en milliards.
Oui, mais je crois que ça, c'est vraiment important de le rappeler. Il faut se rappeler que Netflix, cette année, va investir 19 milliards de dollars en contenu dans le monde. Ils ont une audience qui est gigantesque, donc ça n'a rien à voir. Mais au moins, si une plateforme comme Salto peut cohabiter avec Netflix, c'est déjà bien. Donc ça, c'est une première stratégie, c'est de s'allier entre soi pour partager les contenus, les mettre en valeur. Et puis après, il y a des phénomènes d'intégration verticale ou horizontale. Verticale, c'est vous mélangez les contenus et leurs moyens de diffusion.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire que concrètement, vous allez prendre une plateforme, qui appartient à un groupe et qui a un certain nombre de contenus qui sont mis à disposition. Et puis, vous allez vous allier avec un diffuseur, avec un fournisseur d'accès à Internet pour pouvoir distribuer cette plateforme. Et donc, ça va vous donner d'autant plus de possibilités d'abord d'être diffusé et puis de contrôler les données, de voir qui s'abonne et d'avoir une maîtrise de l'audience.
L'exemple vient souvent des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Comment les grands médias traditionnels ont travaillé, ont œuvré pour lutter contre l'audience sans cesse croissante de ces plateformes ?
Ils se sont alliés et ils se sont déployés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, qui ont en gros le seul marché véritablement mature dans le monde en matière de vidéo à demande par abonnement, on voit que Netflix, qui était extrêmement fort, d'un seul coup a perdu beaucoup de sa puissance parce qu'il y a eu beaucoup d'offres qui se sont déployées, des offres qui sont puissantes, des offres qui sont portées par Fox, par AT&T, par Disney, par des grosses machines, si j'ose dire. Et qui prennent une place aujourd'hui très importante, à tel point qu'aujourd'hui, la part de Netflix aux États-Unis a considérablement baissé, alors que le marché s'est déployé au point qu'on a quand même 75% des foyers qui ont au moins un abonnement, que ce soit à Netflix, à Disney, ou à Amazon, ou à Hulu.
Ouais, exactement, je précisais, aux États-Unis, Disney a acquis la Fox, AT&T a acheté Time Warner, et Viacom et CBS ont fusionné. Voilà un exemple de réponse. Comment se passe la concurrence qui est rude, mais quelle perspective, et surtout comment le CSA va se positionner pour surveiller tout ça ? Réponse après une courte pause, à tout de suite. Avec Hervé Gocho, membre du CSA, qui nous délivre aujourd'hui une étude en exclusivité ce matin, en primeur en tout cas, dans Culture Média. On parle des VADA, des plateformes vidéo à la demande par abonnement, concurrence rude. Désormais, vous avez étudié la manière dont les groupes se démarquent. Qu'avez-vous observé ?
Vous voulez dire en France ou dans le monde ?
En France et dans le monde.
Alors, on va dire quatre stratégies. On parlait tout à l'heure des alliances entre acteurs historiques. Il y a aussi l'intégration, on va dire, contenu et contenant. Les contenus et puis la manière de les diffuser. Il y a les grandes alliances entre les grands studios qui vont partager leur licence, par exemple, et qui vont en profiter pour refaire de l'exclusivité.
Ouais.
C'est le cas de Disney qui a récupéré les licences Marvel, Star Wars et qui les distribue que de manière exclusive. Maintenant, vous les voyez plus...
Oui, alors qu'autrefois, on pouvait voir des films Marvel ailleurs. Et
voilà.
Comme Marvel appartient à Disney,
exactement.
Disney a tout regroupé sur sa plateforme Disney+.
Exactement. Et puis, une dernière stratégie qui est plus récente, c'est ce qu'on appelle en mauvais français la VOD.
Ouais.
C'est en fait la possibilité de faire de la vidéo à la demande, par abonnement, mais gratuite.
Mais avec la publicité.
Mais avec de la publicité. Voilà. Et alors, c'est l'exemple de Pluto TV, qui est arrivé en France il y a quelques semaines. On n'a pas encore les premiers chiffres. Mais c'est un modèle qui a tendance également à se déployer pour faire face, on va dire, à cette déferlante des grandes plateformes.
Pluto TV, lancé par les gens de Molotov qui étaient venus nous en parler ici à ce micro. Comme CBS, me dit-on. Alors, comment s'appelle Pluto TV ?
Pluto TV.
Voilà. investissement local aussi qui va bientôt arriver, c'est dans l'obligation de, pour les plateformes américaines d'investir en France.
Oui, c'est ça. Alors, je parlais de la régulation des grandes plateformes pour que tout le monde soit un petit peu sur la même ligne de départ, même si tout le monde ne fait pas la même taille. Dans les obligations qui vont être... il va y avoir deux types d'obligations concernant les plateformes étrangères opérant en France, donc les Netflix, Disney, Amazon Prime Video, etc. D'abord, des obligations en termes de catalogue, c'est-à-dire une obligation d'avoir 30% de leur catalogue qui est fait, constitué de contenu européen, Grande-Bretagne comprise, d'ailleurs. Et puis,
pardonnez-moi, 30% en temps ou en investissement ? Ou est-ce qu'on pourra mettre des films au rabais qui occupent 30% du temps d'antenne
En nombre de contenus disponibles. Et puis, des investissements financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, les plateformes de vidéo à demande par abonnement en France ont des obligations financières de contribution à la création, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Autant dire que ça ne les concerne quand même pas toutes, parce qu'on vient de le dire, il y en a beaucoup qui sont relativement petites et qui ne sont pas concernées. Mais les plus grosses, donc les étrangères, jusqu'à présent, n'étaient pas concernées et maintenant, elles vont l'être. Elles ont un chiffre d'affaires qui est quand même relativement important et elles vont être tenues par le régulateur, par la loi, d'investir un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans la création audiovisuelle, les séries, les fictions, les documentaires, etc. Il faut quand même savoir que elles le font déjà, parce que ça fait partie de leur stratégie, que ce soit Netflix, Amazon et même Disney. En fait, elles se font pas trop tirer l'oreille pour investir en France. Pourquoi ? Parce que le public français, contrairement par exemple au public espagnol qui aime bien les séries étrangères, on sait que le public français aime les séries françaises, les fictions françaises, et ils y sont attachés. Et donc, les grandes plateformes sont plutôt intéressées à investir en France dans des contenus français pour essayer de capter le public.
Pour donner un chiffre, l'an dernier, Netflix, avant même cette obligation qui sera inscrite dans la loi, plutôt qu'inscrite dans la loi mais qui va être effective, l'an passé, Netflix avait investi 71 millions d'euros dans des créations originales françaises et 15 millions pour Amazon Prime Video. Évidemment, ce chiffre va monter. Et face à tout ceci, quels sont les enjeux pour les CSA ? Quelles vont être vos nouvelles obligations ? Qu'allez-vous devoir contrôler, si tant est que ce soit du contrôle ?
Nous, nos obligations, ça va être de faire respecter les obligations qui vont être imposées aux grandes plateformes. On va faire ce que le CSA fait habituellement, c'est-à-dire de la régulation, de la même manière qu'on signe des conventions avec l'ensemble des éditeurs et des opérateurs avec lesquels, enfin, qui sont dans le champ de la régulation, la radio, la télévision. De la même manière, on va signer des conventions avec les plateformes de vidéo à demande par abonnement, dans lesquelles on va spécifier la manière avec laquelle effectivement ils vont remplir leurs obligations. Et puis après, on va contrôler qu'effectivement ils les respectent bien. C'est le champ normal du travail du CSA.
Et si le contrôle donne des réponses négatives, quels seront vos moyens coercitifs à part faire des annonces ?
C'est la vraie question. Non, mais on fait pas que des annonces. On a une gamme, de montée en charge de sanctions possibles. Ça peut aller jusqu'à des amendes qui peuvent être assez lourdes. Ouais. Avant ça, c'est vrai que on va passer par des phases qui peuvent être une mise en garde, qui peuvent être une mise en demeure.
Mais est-ce que des plateformes étrangères pourront recevoir des amendes aussi importantes que, par exemple, C8 qui avait reçu une amende de la part du CSA ?
Oui, bien sûr. Mais en plus de ça, elles ont des représentations quand même en France et en Europe. Netflix a un très gros bureau à Paris. On a des interlocuteurs avec lesquels on discute et ils sont présents en France, oui.
Les consommateurs sont au centre de la stratégie des acteurs de la VADA. Vous êtes intéressé au comportement de ces consommateurs face à cette offre en constante augmentation. Comment se comportent-ils ? Combien sont-ils prêts, selon votre étude, à dépenser pour voir des séries, des films, du sport ?
Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on se demandait effectivement jusqu'où est-ce que le consommateur est prêt à aller dans la consommation. On voit que le budget moyen par foyer qui est abonné à de la VADA, c'est en gros entre 15 et 20 euros, et qu'on va jusqu'à un peu moins de 2 abonnements en moyenne par foyer.
1,7 abonnements.
Oui, c'est ça, 1,7, 1,8, voilà. C'est ça. Et ce qu'on constate, c'est que on s'est dit, mais si l'offre continue de croître, comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont s'abonner plus ? Est-ce qu'ils vont dépenser plus ? Et si les prix grimpent ou si les prix baissent, est-ce que ça va changer également leur comportement?
Alors
et là, on voit que ça dépend de quel type de plateforme on parle. Si on parle de la fiction, des séries, des films, etc., on voit finalement ça a assez peu d'influence. Les gens, ils ont leur budget, ils ont en général une plateforme à laquelle ils sont abonnés et à laquelle ils ne dérogent pas, ils y restent fidèles. Et puis après, ils passent en deuxième abonnement, ils passent plus facilement d'une plateforme à une autre, d'un abonnement à l'autre. Et ils ne sont pas disposés, quelle que soit la situation, à changer leur manière de consommer. En ce qui concerne le sport, là, pour le coup, c'est différent. C'est-à-dire que si on a des grosses plateformes chères, mais qui proposent plein de sports, les consommateurs sont prêts effectivement à payer le prix. En revanche, si on a plein de plateformes de sport qui chacune va proposer moins de sports, là pour le coup, les consommateurs sont disposés à s'abonner à plus de plateformes, mais ils sont moins disposés à payer. Et si jamais on se retrouve avec des plateformes qui deviennent trop chères, alors là on garde les fans, mais tous les autres s'en vont.
On a bien compris, on a vu ce qui s'est passé avec Mediapro.
Exactement.
Et feu la chaîne Téléfoot. Le CSA a réalisé cette étude, on l'a dit, avec l'ADOPI, la haute autorité chargée, entre autres, de la lutte contre le piratage. On se souvient, il y a quelques années, de la riposte graduée. C'est comme ça qu'on l'appelait quand on était pris en train de télécharger des séries ou des films. Riposte qui pouvait aller jusqu'à l'amende, voire des poursuites judiciaires. Certains critiquent le bilan de l'ADOPI. Elle a coûté plus d'argent qu'elle n'en a rapporté. Question perfide, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que c'est pas très juste de dire ça, c'est-à-dire que les règles, elles ont été établies à un moment où, quand on faisait du piratage, on téléchargeait des contenus. Alors qu'aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Enfin, je veux dire, les pirates, quand ils consomment de manière illicite, ils font du streaming.
Mais là, il y a toujours du piratage.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que les règles ne sont plus forcément tout à fait adaptées. Et c'est vrai que la ADOPI a fait avec les moyens qui lui étaient alloués. Et je trouve qu'il faut pas être complètement injuste, d'autant que la ADOPI a non seulement un rôle en matière de lutte contre le piratage, et que elle a fait vraiment au mieux et plutôt pas mal en fin de compte. Et puis elle a aussi un rôle d'observation, ce qui est très important, parce que là encore, on peut difficilement lutter contre le piratage si on n'est pas capable de le quantifier. Voilà. Et nous, dans quelques temps, on l'espère, il va y avoir la fusion du CSA et de la ADOPI, qui va devenir l'ARCOM, on l'espère en tout cas, c'est entre les mains du législateur et du Parlement. Et nous, on va être ravis de travailler avec eux. On pense qu'ils ont énormément de choses à nous apporter.
Merci beaucoup Hervé Gocho, membre du CSA, l'un des 7 sages du CSA. L'étude que vous venez de nous présenter en exclusivité dans Culture Média est disponible sur le site du CSA, csa.fr.